On accueille maintenant Christian au 3921. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous Christian ?
Eh ben ça va.
Bon,
ça va.
Très bien.
Eh ben la Bretagne est à l'honneur là.
Ah bon ?
Parce que j'appelle des Côtes d'Armor de Saint-Brieuc.
Ah très bien, quelle chance.
Donc,
c'est beau.
Ah ben, ouais.
C'est très beau là-bas. Saint-Brieuc, ouais. Hein, vous m'avez dit.
Oui, Saint-Brieuc. Ouais.
Bon, vous y êtes depuis tout le temps ou vous y avez été un peu plus tard ?
Depuis pas mal de temps, ouais. Je suis des Côtes d'Armor, voilà, originaire des Côtes d'Armor.
Très bien.
Voilà, oui, il fait toujours beau.
Oui, il fait toujours beau là-bas ? Souvent,
on a eu une belle arrière-saison, ça a été. Le mois de septembre, ouais. Il ne pleut pas plus qu'ailleurs, disons, c'est ça que je veux dire. Ouais.
Bon, en plus, vous avez la chance de ne pas avoir le couvre-feu, vous, là-bas, parce que dans le flot de mauvaises nouvelles que j'ai annoncées, ou en tout cas de nouvelles un peu stupéfiantes tout à l'heure, j'ai oublié de parler de ce couvre-feu.
Oui, prenez pas loin de la mer, on peut se balader, c'est agréable.
Bon. Quelle chance, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène, mon cher Christian ?
Alors, moi, je voudrais parler de l'homosexualité.
Oui.
C'est-à-dire que l'an dernier, on parlait des jeunes qui avaient des difficultés avec leur homosexualité, c'est-à-dire par rapport à leur entourage professionnel, par rapport à leur entourage familial, somme toute. Mais moi, je dis que ce n'est pas seulement les jeunes qui ont des difficultés. C'est même moi, je sais de quoi je parle, parce que j'ai découvert mon homosexualité j'ai 60 ans, il y a une quinzaine d'années. Et puis, ça n'a pas été simple non plus. Bon, mais j'ai fait un travail sur moi-même. Enfin, mon cas n'est pas isolé.
Non, pas du tout.
Ça n'arrive pas. Au départ, je croyais que j'étais seul dans le par rapport à ça, quoi. Voilà. J'étais.
Vous pensiez être isolé ?
Oui, il y a un peu désemparé, comme je disais au standard. J'ai fait une dépression.
Oui.
J'ai fait une crise d'identité, quoi. Voilà. Et puis, c'est pas tout, je me disais comment je vais annoncer la couleur, quoi. Parce qu'en plus, je divorçais et la raison du divorce.
D'accord. Et. J'ai une question à vous poser par rapport à ça. Vous dites avoir découvert votre homosexualité il y a 15 ans à peine.
Oui, à peu près. Ouais.
Avant, RAS, rien à signaler, pas de d'attirance ou pas de questionnement.
Non, parce que j'avais pas de contact. J'avais des fantasmes, mais entre les fantasmes et passer à l'acte, ça fait deux.
Oui, mais ce qui ne veut pas dire que cette homosexualité n'était pas déjà bien présente, en fait.
Refoulée,
ouais. D'accord.
Ah, ouais.
Complètement refoulée. Ouais. De l'ordre du fantasme, donc, elle était là, dans votre esprit, fantasmagorique, mais vous vous interdisiez donc d'aller plus loin.
Oui.
D'accord.
Et c'est quand j'ai franchi, comment on dit le pas ? Et je ne pouvais plus rester, parce que comme je suis marié, avec ma femme et avoir des aventures. Pour moi, c'était inconcevable. Il fallait trancher. Plus ça allait, plus je me sentais homosexuel. Quoi.
D'accord. Comment ça se passait lorsque vous étiez adolescent et que vous êtes devenu jeune adulte ?
J'avais jamais eu de relation avec des filles étant au lycée. Hein.
D'accord.
Jamais.
D'accord.
Jamais. Ça ne m'attirait pas.
D'accord.
Et à 25 ans, je me suis marié vers les 26 ans, ouais. Bon, je voulais former un foyer, c'était être dans le moule, mais bon, je voulais avoir des enfants, je voulais construire une vie, normale. Non, c'est une vie, je voulais avoir.
Comme tout le monde.
Oui, c'est ça, oui, comme tout le monde. Et. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. On croit, c'est pas histoire de génération, mais qui ont 80 ans et plus sont très tolérants par rapport à ça. Et d'autres veulent. Il y a des homophobes, il y a des xénophobes, il y a des racistes. Les gens sont cruels quand on n'est pas armé.
Complètement.
Ce que je veux dire.
Je vois parfaitement, on l'évoque.
Très, très méchant. En plus, à l'époque, il y a 40 ans, il n'y avait pas de j'ai pas de ça, mais enfin, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas. Les gens balancent plein de choses sur ces réseaux sociaux-là. Pour déstabiliser, ça peut être les profs, ça peut être les. Tout est bon pour attiser. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut. On ne va pas revenir au vieux téléphone des grands-parents, mais on a été trop vite dans le truc, quoi. On a été. Il y a la haine dans ça arrive pas. Ouais, la haine, ouais. Parce que les gens balancent n'importe quoi, leurs voisins, leur famille, leur.
J'aimerais d'ailleurs, par rapport à ce que vous dites, mon cher Christian, vous orienter, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, sur un excellent documentaire qui est sur Netflix et qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée.
Netflix, d'accord.
Oui, et si vous avez l'occasion de le voir ou de le télécharger, vous Christian, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, on entend dans ce documentaire passionnant parce que toutes ces personnes qui sont à l'origine de ces réseaux sociaux, hein, de ces grands réseaux sociaux, expliquent tous comment ils ont construit un monstre devenu pratiquement incontrôlable aujourd'hui, avec des règles qu'il faudrait instaurer, bien évidemment, mais qui expliquent aussi que c'est devenu très difficile. Et lorsque je parle de ce documentaire, je fais référence, bien évidemment, au côté anonyme qu'on peut avoir sur Facebook et qui permet, comme vous le disiez, hein, Christian, de balancer sur tout le monde, de déverser sa haine sur tout le monde. Si cette notion d'anonymat était interdite, si cette notion d'anonymat était même attaquable, c'est-à-dire que quelqu'un qui balance des saloperies sur qui que ce soit soit poursuivi, je pense que les réseaux sociaux seraient assainis et là on verrait tout le côté lumineux et tout, je dirais, tout l'intérêt que pourraient représenter ces réseaux sociaux. Or aujourd'hui c'est vous avez raison d'en parler, c'est terrible de voir cette homophobie, cette xénophobie, ce racisme.
Ça pousse les gens au suicide, ils sont déstabilisés. Moi j'ai pas de Facebook ni rien, mais moi, j'ai un ami qui est ça depuis 13 ans. Je vais pas dire où il habite, il joue dans la musique, je ne vais pas dire dans quel groupe, sinon on va trouver tout de suite qui c'est, voilà.
D'accord.
Donc je le connais depuis 13 ans, et jamais il ne veut pas qu'on parle de lui dans Facebook ni rien, il n'a pas de Facebook non plus, mais enfin il ne faudrait pas que les enfants, moi j'ai des enfants, mettent des trucs dans Facebook. Parce qu'il n'a jamais dit à son entourage professionnel, ni amical, ni à ses parents, qu'il était homosexuel. Mmh.
Parce que ça continue.
Pas, c'est terrible.
Ça continue à être difficile en province, hein, pour certains, de révéler son homosexualité, non?
Oui, alors que moi, j'ai fait une thérapie aussi, j'ai oublié de dire, j'ai fait une thérapie à l'époque.
Oui.
2014, tout le monde s'écroulait. Et grâce à ça, je m'en suis sorti. Maintenant, j'ai des arguments et puis je m'en fous de ce qu'on pense, quoi. Je suis correct,
Vous êtes en conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de vous-même,
ouais,
en fait.
Je ne vais pas... parce qu'à l'époque, on faisait un amalgame entre je vais être brutal, entre homosexuel et... Alors on disait PD, on pensait aux enfants. On disait PD.
Oui.
C'était le synonyme de pédéraste. En principe, c'est des.
Le pédophile.
Des enfants. Alors, mais on faisait tout un amalgame, quoi, par rapport à ça.
Vous savez, il n'y a pas si longtemps.
Les homosexuels qui ne vont pas les tuer, comme la pauvre fille qui s'est fait. Oui. Feu. Ouais, c'est,
mais... Et vous savez, il n'y a pas si longtemps, Christian, l'homosexualité était considérée comme une maladie psychiatrique.
Oui.
Mais oui.
Ah, je vais expliquer, je vais essayer de m'expliquer, d'expliquer parce que j'ai lu des bouquins là-dessus. C'était la névrose. Olivier, il y a beaucoup qui sont névrosés.
Oui, mais pas plus que les hétérosexuels.
Non, mais c'était classé comme ça, comme la maladie alcoolique, et puis c'était classé dans les trucs, américains, c'était des cloisons, quoi. Voilà, on disait que l'homosexualité était, parce que c'était dû à la névrose, c'était tout au complexe d'Oedipe, enfin, tout est un bazar, quoi. Et alors que c'était une façon comme une autre de rejeter les homosexuels. C'était comme, regardez ce qui s'est passé en 45, ils ont payé un lourd tribut.
Oui, Dieu merci, c'est fini. En tout cas, chez nous.
Parce que Daesh, parce que comme dans... je disais à Natacha, pas Daesh, oui, à Daesh, là-bas, on balance les...
Mais partout dans les pays musulmans, vous savez qu'en Afrique noire, beaucoup, dans les pays musulmans, l'homosexualité est même on peut être condamné à mort pour ça. On va continuer à évoquer tout ça, Christian, et puis j'aimerais qu'après cette petite pause, on évoque ce moment délicat où vous avez décidé d'annoncer votre homosexualité, et j'aimerais que vous me racontiez comment vous y êtes pris. On se retrouve dans quelques instants, d'accord ? À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h16 sur votre radio Europe 1 et c'est votre libre antenne en direct du studio Coluche. Plongé dans la pénombre, je vous imagine toutes et tous à l'écoute de votre émission. Et bien sachez que nous sommes encore un moment ensemble puisque à 1h du matin, nous nous dirons au revoir. Mais pour l'instant, il est 23h17 et nous échangeons avec Christian qui nous parle de ce coming out intervenu il y a une quinzaine d'années, après avoir été père de famille, un mari. Christian, combien d'années de mariage et comment annonce-t-on à sa famille son homosexualité ?
Donc je me suis marié en 86, ça a duré jusqu'à 2000, pas loin de 20 ans. Pas loin de 20 ans. Mmh. Et moi j'ai annoncé, si on veut, la couleur à l'entourage familial, à l'entourage, mais c'est pas simple. Après, une fois que je m'étais sorti, comme je disais au début, j'ai fait une dépression, c'était terrible, une crise d'identité, enfin c'était tout s'écroulait, quoi. Et puis, parce que je prenais ça à cœur, aussi, cette histoire de conscience, et comme j'ai fait une introspection, c'est pas ça qu'on dit, non, j'ai fait une analyse là-dessus, oui. Je veux dire, et ben grâce à cette analyse, c'était pas une thérapie qui a duré des années, mais peut-être un an, enfin, bon, j'allais voir un psychologue de CMP, le fait d'analyser, de s'être analysé, j'ai réussi après à faire mon coming out, à annoncer la couleur. J'étais obligé de dire pourquoi je divorçais, parce que c'est moi qui ai demandé le divorce alors qu'on avait tout pour être heureux. Mmh. Mais ça, c'est une façade, ça aussi. Il ne faut pas regarder que les beaux trucs, la belle voiture, ça c'est du matos, c'est matériel. Mais et donc j'étais obligé de dire pourquoi mon entourage, quoi. Ça, avec tact, évidemment, j'ai pas pris le micro pour dire voilà, je suis homosexuel. Non, j'ai fait ça avec délicatesse.
Alors, comment fait-on avec délicatesse ? Expliquez-moi.
Je dis que je divorçais, après, quelques temps après, j'ai eu un ami, ce qui n'a pas duré longtemps parce que bon, la relation était toxique, enfin, peu importe. Vu que je divorçais et que j'allais avec une personne, j'étais obligé de dire pourquoi, me justifier, quoi. Mais bon, j'ai pas annoncé ça de manière brutale.
Mmh, d'accord.
On a tout de suite compris, mon entourage, et mon entourage professionnel ne m'a pas rejeté. Enfin, ça se passait comme avant. Ouais.
Comment ont réagi vos enfants, en fait ? Est-ce que ça a été compliqué pour eux ?
Bien.
Non, bien.
C'est bien passé.
Quel âge avaient vos enfants lorsqu'ils comprennent ?
Ils avaient entre la dernière, elle avait 10 ans, le premier avait une quinzaine d'années, entre 10 et 15, ouais.
D'accord.
C'est la maman qui a expliqué, puis mon ex-femme, elle a du courage parce qu'elle a bien supporté, parce qu'elle préférait me voir la tromper, que je tromperais avec un homme qu'une femme. Et moi aussi, d'ailleurs, j'aurais pas voulu tromper ma femme. D'ailleurs, on s'arrangeait bien.
Ah, c'est drôle, ça.
Oui, et en plus, elle connaissait dans son entourage. Oui, mais je vais essayer de m'expliquer. Pour certains, c'est pas évident, parce qu'on n'a pas connu ça, évidemment. Mais dans son entourage, elle connaissait le même tableau. Ouais, ouais, donc, ça l'a rassurée, en quelque sorte, quoi.
Oui.
Et moi aussi, j'avais connu ça. J'avais connu, plus ça allait, plus je voyais des hommes qui basculaient dans mon sexualité.
Mmh. Oui, mais vous savez, vous savez comment c'est. On commente toujours de manière positive. On peut commenter lorsque ça arrive chez les autres. vous voyez, je connais moi un couple de personnes qui ont un garçon de 17 ans qui joue au football. Ils ont appris il y a 2 ans l'homosexualité d'un de ses copains qui jouait au foot avec lui. Et donc, voilà, à l'époque, il trouvait ça formidable, l'attitude des parents, l'acceptation des parents. Et donc, aucun changement dans la famille jusqu'au jour où le petit a fait son coming out. En tout cas, qu'ils ont compris que c'était la même chose. Et ils n'ont pas du tout réagi de la même manière. Du tout.
Ah non, ouais. C'est ça. Comme on dit, comme je me rappelle, un médecin me disait, je l'ai toujours en mémoire cette phrase-là, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.
Non.
Hein? Non. Pour tout, pour pas mal de choses d'ailleurs. Ouais. Il faut savoir se protéger. Mais moi, j'ai réussi à faire ça, c'est grâce à ça que j'ai tenu. À faire une analyse, à faire une réflexion là-dessus.
Elle était nécessaire, cette analyse. Qu'avez-vous découvert en fait, qu'est-ce que vous gardez de cette analyse? On garde souvent des moments où on sent qu'on est devenu soi-même, en fait.
C'est vrai que quand j'étais enfant, je ne sais pas si c'est ça, j'étais plus proche de ma mère. Alors, c'est ça, il y a tellement de... On essaie de savoir le pourquoi on devient... On est le même être homosexuel. On cherche toujours à savoir, parce que c'est pas encore dans les cases, quoi. C'est pas dans le comment je veux dire, l'hétérosexualité, ça fait partie depuis la nuit des temps. Mais l'homosexualité, on essaye de comprendre le pourquoi à chaque fois. C'est naturel.
Oui, parce que pour moi, l'homosexualité existe depuis la nuit des temps aussi, mon cher Christian.
Oui, c'est ça. Oui.
Sauf qu'aujourd'hui, dans ce monde... dans ce monde moderne, aujourd'hui, dans cette société où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on communique plus à travers ces réseaux sociaux, et c'est l'un des côtés positifs et lumineux du numérique. Les mentalités ont pu évoluer parce que abreuver théoriquement, mais quand même il y a quand même, en plus vous parlez de vos enfants qui aujourd'hui doivent être des grandes filles, des grands garçons, cette génération une fille de gars, ces gens qui ont entre 15 ans et 30 ans aujourd'hui, aujourd'hui ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit que votre génération à vous, vous voyez, sur la question.
Mais tu dis pas, moi je suis Olivier, dans le milieu, par exemple, des gens qui ont des problèmes d'alcool.
Oui.
Je ne vais pas dire où non plus, comme j'entendais l'autre interlocuteur. J'étais très tolérant, je n'avais pas de rejet, je prenais les patients comme ils étaient, sans savoir le pourquoi exactement, comme j'étais agent hospitalier. C'est une sorte de tolérance, quoi. Et si je n'avais pas accepté ça, je n'aurais pas pu travailler comme il faut dans le milieu. C'est l'alcool, ça peut être l'handicap, ça peut être, je travaille dans le milieu hospitalier psychiatrique, il faut vraiment être tolérant, quoi.
Bien sûr. Alors, Aga au 739-21 nous apporte quelques précisions quant à ce que nous disions tout à l'heure. L'homosexualité n'était pas considérée comme névrose, pire, c'était une psychose, au même titre que la schizophrénie, c'était une perversion, une pathologie psychiatrique. Et jusqu'en 1982, en France, c'était considéré comme ça. Et puis, Aga nous apporte une nouvelle précision, puisqu'elle nous dit que, pour les petits détails, en 1791, le crime de sodomie a été aboli en France et dépénalisé par les révolutionnaires enfin des révolutionnaires qui ont fini sur le bûcher.
C'était à Delhi jusqu'à les années 75, je crois, du temps de Giscard d'Estaing. Là, c'était un délit d'être homosexuel, je crois. Ouais, de...
bah, on a mis du temps, hein, puisque la dernière précision...
Et c'est l'OMS qui a enlevé ça des maladies mentales. Voilà,
oui, mais vous voyez qu'en France, par exemple, pour montrer... On parle d'homophobie, on parle de différence, bien évidemment, faite entre les hétéros, les homos. En 1982, c'est la gauche mitterrandienne qui met fin à la discrimination qui donnait la majorité sexuelle, donc dès 15 ans aux hétérosexuels, mais à 21 ans pour les homosexuels. Vous voyez ? C'est pour bien montrer que même à cette époque-là, on a voulu souffler vraiment... un vent de la liberté, mais on laissait les homosexuels à part. Pas responsables, finalement.
Il y avait l'histoire du sida. Enfin, on a fait tout un bazar, ouais, comme maintenant le Covid. Les gens ont la mémoire courte. Et ben, à l'époque, comme toujours, il faut se protéger. Alors, c'est vrai. Quoi. Donc, c'est pas. On en a parlé. Maintenant, on parle plus de ça, mais on en parlait autant que le Covid.
On va continuer bien évidemment, on va continuer à l'évoquer avec vous. On va marquer une nouvelle pause, mon cher Christian. Et puis, on va parler de votre quotidien aujourd'hui. Comment vous vivez, comment vous assumez cette homosexualité, car vous me l'avez dit tout à l'heure et écrit avant que vous étiez vous-même et que vous foutiez du quand dira-t-on. Donc, vous allez m'expliquer ça. D'accord ? À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à nous appeler au 3921, Florian et Natacha vous attendent en régie. Et puis vous pouvez aussi nous écrire comme Agathe nous l'a fait pour nous apporter toutes ces précisions quant à l'histoire qui entoure l'homosexualité. Et puis aussi envoyer vos messages. Des messages comme celui de Fred de Nîmes, Fred Coursier, qui nous salue et qui nous dit qu'il est bien content de nous accompagner souvent sur Europe 1 le soir. Et enfin, notre cher ami Patrick, qui, je le rappelle, en rassurant Florian, qui s'arrête pour écrire ses textos et qui s'arrête pour écouter cette libre antenne, qui nous précise, Patrick le routier, que sur YouTube, concernant les réseaux sociaux, il y a aussi une excellente vidéo du docteur Jimmy Mohamed qui s'intitule « Pourquoi se passer des réseaux sociaux ?» Merci à toi ou à vous, Patrick, comme vous voulez. Christian, on évoquait cette homosexualité et ce que vous m'aviez écrit, le « quand dira-t-on ?» Vous m'avez dit que vous n'en aviez rien à faire. Est-ce que vous sentez, vous, en vivant en province, où on sait qu'en province, on est dans des endroits où on connaît plus, on affronte plus le regard des autres parce qu'on se croise plus facilement, tout le monde connaît à peu près tout sur tout le monde. Est-ce que, comment vous vivez ça, vous ?
Là, j'habite dans une... Avant, j'étais au centre de la Bretagne, mais j'étais muté au niveau professionnel. J'habite sur Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est une ville qui est facile à... C'est une taille, de taille moyenne. Et puis, bon, je côtoie pas nécessairement les voisins. Je m'arrange très bien avec les voisins. Ils savent comment je suis. Il n'y a pas de... Je dis ça maintenant. Au départ, je me posais plein de questions. Je me disais, j'étais un peu dans la parano. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens, même dans la famille. C'est pareil. Maintenant, ça se passe très bien. Je vais vous donner une anecdote. Il y a 15 jours, j'ai fêté mes 60 ans. Mon ami est venu... après, il n'est pas venu pendant le repas. Il est venu chez ma mère et c'est la première fois que ma mère le voyait. Et puis, ça s'est très, très bien passé avec Ong et Tan et frères et sœurs. Et au départ, il n'osait pas venir. Et puis, il est venu. C'est très, très bien passé.
D'accord.
Et ça a été un soulagement pour moi. Comme ça, voilà, je l'ai présenté. Ça faisait 15 ans, 13 ans qu'on se connaît. Ma mère était contente. Et maintenant, elle accepte que je prononce son prénom. J'allais dire le prénom. Ça se passe très bien. Avec lui, il m'offre pas mal de cadeaux, des smartphones, des tablettes, des téléviseurs. C'est, enfin, parenthèse, c'est pour dire que ça marche aussi bien que dans le milieu hétéro, c'est histoire de confiance, quoi. Voilà.
D'accord. Et comment les regards, vous les affrontez? Parce que, est-ce que vous sentez que...
Non,
ça va?
Non, parce que dans la petite ville, comme je disais, quand j'étais en campagne, c'est pareil, j'aurais eu ça en campagne. Je serais bien passé, à mon avis, ouais. Parce que je me suis construit. Évidemment, ça aurait été à 20 ans, peut-être ça aurait été différent.
Et aujourd'hui, vous vivez donc avec quelqu'un ou vous avez une relation avec quelqu'un depuis...
J'ai une relation avec quelqu'un, mais on ne vit pas ensemble parce que lui ne veut pas, parce que... Enfin, il n'ose pas, mais je suis mi-temps chez moi et mi-temps chez lui, à 5 minutes d'ici.
D'accord.
Et je fais pas mal de choses en arrivant, je fais comme... Comme chez moi, je fais le ménage, je fais comme il travaille beaucoup. Et puis maintenant, je suis en retraite depuis un an. Alors, première année de retraite, je m'en souviendrai, le Covid et compagnie. Mais,
Ah oui, c'est la première année, là.
Ouais, ça a été pénible, ouais. Mais pénible, non, mais on ne s'attendait pas. Voilà. Mais, donc, moi, les voisins que je côtoie là-bas, chez lui, ça se passe très bien. Il ne faut pas se cacher. Pourquoi se cacher? Mais c'est plus facile à dire que faire. Ça,
c'est clair.
C'est comme ceux qui vont au niveau qui change de religion. Sa nièce a changé de religion, c'est pour dire. Alors, s'il annonçait la couleur qu'il était homosexuel à ses parents, à son père, parce que sa maman est décédée, et puis à son entourage. Donc sa nièce a changé de religion, elle est partie au Maroc, enfin bon, et c'est pas simple non plus. Alors là, c'est plus facile d'aller d'une religion à une autre que le contraire, je sais, un truc comme ça. Ouais, mais une fois qu'on y est, ouais. Donc, et moi je veux pas pousser non plus, comme je m'arrange très bien avec lui, je veux pas faire du chantage, je vais pas dire faire un scandale, quoi. Non, il n'y a pas de raison. Je vais pas dire à la famille, je vais pas dire à son entourage où il fait la musique, là, dans le groupe, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Non. Il est hors de question. Ce serait malhonnête de ma part. Ce serait très malhonnête de ma part.
Bon, tout se passe bien, en tout cas.
Oui, ah oui, qu'elles sont... Heureusement qu'il est là.
Heureusement qu'il est là.
Ah ouais, parce que souvent, il me téléphone au moins trois fois par jour, il me gâte, et c'est vraiment... Je pensais jamais trouver un amour comme ça. Mm-hmm. C'est vraiment un amour. Je fais pas mal de choses, non pas par intérêt, mais par amour.
Par amour, je c'est magnifique.
Et ça existe, et ça existe, Olivier.
Ouais.
C'est admirable que ce soit deux femmes, un homme, une femme qui s'arrangent comme deux gouttes d'eau, quoi. C'est super, quoi, c'est admirable. Quand il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Même quand j'étais avec mon ex-femme, je faisais le boulot à la maison, je repassais, je lavais, comme ça on était tranquille pendant le week-end. Je lui offrais des fleurs. On n'est pas obligé de dire je t'aime à chaque fois, quoi. Mmh, mais qu'on fait des petits gestes sympas pour... Mais je reviens, Olivier, on a encore peut-être quelques secondes,
oui.
Donc à l'homosexualité, parce qu'on a écrit pas mal de choses là-dessus. Hein. Et puis j'ai vu des reportages, on a dit de tout. Et donc, pour synthétiser, la religion, surtout ici en Bretagne, c'est l'histoire de religion, la religion, les religions et l'homosexualité ne font pas bon ménage. Et la sexualité en général. Aussi, ils ont été montrés du doigt avec la religion, les homosexuels.
Oui, ça continue.
Comme les divorcés à l'époque, les divorcés n'avaient pas le droit de repasser à l'église.
Je crois qu'aujourd'hui, ça s'est arrangé quand même. Oui, vous ne pensez
oui,
pas
parce que, je ne sais pas si vous avez vu le film, on le donnait à choisir entre être homosexuel, c'était le fils Alain Delon. Jouait. Il était dans le film curé.
Oui. Non, je ne l'ai pas vu.
Homosexuel. c'est très bien. Si, il est déjà passé au moins deux fois sur eux, ouais.
D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, comme aux États-Unis, on voit, hein, puisqu'on copie beaucoup les États-Unis, il y a aujourd'hui des associations. En France, il y a des associations qui, de catholiques, homosexuels. Il y a des paroisses qui... ça grince un peu des dents. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais je pense notamment à Bordeaux, à une paroisse, une très jolie paroisse qui accueille une association d'homosexuels catholiques. Ça avance. Voilà.
Et, mais la preuve que ce n'est pas encore...
Ça n'est pas encore ça. Ça n'est pas encore ça.
S'il y a des associations style LGBT, tout ça, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a du chemin à faire encore. Même, je suis d'accord avec vous, Olivier, qu'on a évolué. Et Dieu merci pour tout. Avant, s'il fallait mettre ça dans sa poche avec un mouchoir par-dessus, pour le divorce, que je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait une cousine qui divorçait. Elle était la risée de la famille.
Oui, oui.
Hein, c'est à l'époque, divorcée, ouais, alors que elle avait... vraiment, c'était justifié. Ouais. Maintenant, c'est hop, monnaie courante. Mais la religion aussi, à l'époque, comme je disais, les divorcés étaient mis à l'écart.
Mais la religion...
Les suicides n'avaient pas le droit d'aller dans le cœur de l'Église. Les suicides, c'était plutôt l'enfer, quoi. Donc, c'était le diable, quoi. Ouais. Donc,
oui, mais la religion continue de faire tout de même beaucoup de mal à ce niveau-là. Et on l'évoquait tout à l'heure, dans le monde, hein, on voit ce qui se passe en Tchétchénie aujourd'hui avec des camps... on voit en Afrique, au Sénégal, hein, un si beau pays, ou la Côte d'Ivoire, où on chasse les homosexuels. Presque dans tous les pays d'Afrique noire. C'est terrible. J'ai du mal à considérer qu'on puisse être en danger de mort à cause de sa sexualité. C'est terrible. Terrible.
Même en France, on n'est pas en danger de mort. En
non,
France.
Non. Il faut faire attention. Il faut faire attention.
Tabac.
Oui, je pense que deux garçons, deux filles aussi, hein, parce qu'il faut évoquer les filles aussi. Hein,
on pense tout de suite à l'homosexualité.
Oui, mais deux filles qui se tiennent la main ou qui s'embrassent dans la rue, ainsi que deux garçons, peuvent s'attirer vraiment soit des insultes, soit des...
C'est pour ça.
C'est tout de même pénible de penser qu'on ne peut pas encore être libre de s'aimer, puisque vous l'avez...
Rien qui attise le... le feu, je pense à un parti politique. Hop, je ne citerai pas, parenthèse. Mais bon, c'est la preuve. Donc, chacun est libre, hein, de penser ce qu'il veut, c'est sûr. Mais bon, voilà.
Vous me voyez très heureux de vous savoir amoureux et de vivre un amour magnifique.
Donc, mon témoignage peut aider d'autres personnes, comme quoi, je veux dire, voilà, ça arrive, quoi.
C'est possible.
Et bon courage à tous les jeunes ados et les jeunes adultes qui ont du mal à faire ça. Et puis, il ne faut pas qu'ils hésitent à aller. Il y a des lignes d'écoute par rapport à ça. Il y a, quand ils sont mal, le refuge également pour les adolescents. Je crois que c'est ça. Et puis, les associations LGBT, il y a le refuge et puis d'autres trucs encore.
Il y a des choses. En tout cas, sachez, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, que cette maison Europe 1 et cette libre antenne, elle est faite aussi pour vous, pour échanger ensemble, hein, bien évidemment, sur notre groupe de parents sur Facebook.
Il y a des années avec...
Avec Caroline.
Caroline Blanche, et même elle faisait également en journée à l'époque, ça remonte à des années. La preuve que je suis bien européen.
Hein. Très bien. Et je vois que vous êtes resté fidèle surtout.
Ah oui, mais le dimanche soir, il y a
Sabine. Sophie Péter, c'est Sabine.
Oui, voilà,
il y a Sabine Marin maintenant.
C'est ça. Oui, Sophie Péter. Ouais.
Bon, écoutez, je vais être obligé de vous quitter parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir au standard, donc je vous embrasse.
Oui, par rapport à ça. Oui. Et puis ça se passe très très bien. Et mille fois merci Olivier pour votre émission.
Je vous en prie.
Et bon week-end à vous, merci.
Bonne continuation,
bon courage à Paris.
Au revoir.
Avec le confinement.
Oui, au revoir.